Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Janvier est avec nous, bonjour. Et vous allez bonjour, réagir Pascal. Sur ce rapport qu'a commandé l'Église. Votre premier sentiment ?
L'Église a ses torts et on doit les reconnaître.
Le rappel des titres avec Amandine.
Et elle a eu l'effroi et la publication justement après ce rapport sauvé des chiffres terrifiants. 330 000 personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique de France et ce depuis 1950. On découvre par ailleurs que 15% des femmes ont été agressées sexuellement avant leurs 18 ans. Dans l'actualité également, cette prise d'otage en cours à la maison d'arrêt de Condé-sur-Sarthe, présentée comme l'une des plus sécurisées de France. L'un des deux surveillants qui était retenu a été relâché il y a quelques minutes. L'autre, un homme qui a été blessé d'ailleurs, est enfermé dans cette cellule, dans une cellule, avec ce preneur d'otage, donc un détenu. Dans l'actualité également, cette rencontre extrêmement symbolique. On apprend qu'Emmanuel Macron a reçu l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, Blinken. Première rencontre avec un responsable américain depuis la crise des sous-marins. Enfin, les syndicats sont dans la rue aujourd'hui. 200 rassemblements organisés un peu partout en France pour protester à la fois contre la réforme de l'assurance chômage et réclamer l'abandon de la réforme des retraites. Notre météo, c'est toujours bien bien pluvieux cet après-midi, Peggy.
Et oui, Amandine, puisque la perturbation, elle se décale vers les régions de l'Est. On va la retrouver cet après-midi entre le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Massif central en allant vers le Sud-Ouest. Alors, la Méditerranée reste à l'écart, même si le ciel se couvre au fil des heures. Quelques gouttes sont possibles encore du côté de Marseille, mais pas grand-chose, hein, rien à voir avec hier. Et puis en Corse, le temps se gâte également cet après-midi dans sa partie sud, avec des averses orageuses et du vent attendu. Sur une grande partie ouest du pays, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, entre nuages, éclaircies, quelques averses, une traîne plus active au nord, entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'île de France, avec plus de nuages, plus d'averses, voire un coup de tonnerre possible, et toujours beaucoup de vent sur le nord-ouest, des rafales jusqu'à 80 km/h sur les côtes de la Manche, 60 dans les terres, et dans la partie sud-ouest, sud, là, on a, au sud de la Loire, plus d'éclaircies, un peu moins d'averses, tout ça sous des températures qui sont plutôt homogènes, hein, souvent sous les normales de saison, 15 à Cherbourg, 16 à Lille, 17 à Rennes, Paris, Nancy, Clermont-Ferrand, La Rochelle et Nîmes, 18 degrés à Toulouse, 20 à Marseille et 22 à Nice.
Et ça ira mieux demain.
Ça ira mieux parce qu'on va retrouver juste les traces de la perturbation avec quelques gouttes et encore beaucoup de nuages sur les frontières du Nord toute la journée. Un ciel encore bien nuageux et quelques pluies ici ou là sur la moitié est du pays et les Pyrénées. En revanche, près de la Méditerranée et en Corse, retour du soleil toute la journée avec du vent. Mistral et Tramontane vont bien souffler. Et sur la moitié ouest, là, retour d'un temps sec avec de belles éclaircies. Ces éclaircies vont gagner les deux tiers ouest du pays dans la journée. Ça restera nuageux et humide. Donc sur les frontières du nord et le flanc est. Retour de la neige, même au-dessus de 1500 mètres sur les Alpes. Peu d'évolution côté température. De 14 à 18 au nord, 17 à 23 au sud. Et pour la suite, jusqu'au week-end, Météo France nous prévoit un temps sec.
Ah oui,
et ensoleillé.
Louis Baudin, hier, nous a dit le week-end sera magnifique. Oui. On a écrit ça et on le convoque si jamais ça change. Merci beaucoup, Peggy.
Merci Amandine, il est 13h04.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous le savez, donc, c'est l'effroi après la publication du rapport Sauvé et ces chiffres terrifiants. 330 000 personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique de France depuis 1950. On est avec Janvier qui voulait commenter ce chiffre et nous donner le sentiment sur la responsabilité de l'Église. Et le père Amar est resté avec nous.
Oui. Bonjour Pascal.
Janvier.
Oui,
je vous laisse la parole.
Bien sûr. Alors déjà, tout d'abord, on voit que au niveau de ce rapport, c'est tout de même un bon sentiment, on va dire, que l'Église va mettre en avant dans le sens où elle a tout de même commandé cette enquête, hein, via une commission indépendante, via le rapport Sauvé. Et donc, on voit que c'est assez impressionnant de voir plus de 330 000 victimes. Hein, et donc l'Église reconnaît tout de même ses torts. Hein, c'est des crimes qui ont été commis par certains prêtres. Et je pense que l'Église fait le mieux pour aller de l'avant.
Alors le père Amar qui est resté avec nous et qui disait tout à l'heure « j'ai honte de ce qu'il apprend ce matin ». Monsieur l'abbé, en même temps, vous n'êtes pas surpris d'apprendre cela. Vous saviez que ce chiffre était très important.
C'est le chiffre qui est effarant. En fait, je savais, parce que vous savez, moi, ça fait 20 ans que je suis prêtre, Et ça fait 20 ans qu'on nous parle de ça, qu'on nous met en garde. Au séminaire, on est même formé à avoir des gestes prudentiels, à avoir des attitudes qui correspondent. Mais le chiffre, il est accablant. Ça dépasse l'imaginable. Mmh. C'est ça, en fait, qui me met à la fois dans une immense tristesse et à la fois dans une immense colère aujourd'hui.
La seule chose, peut-être, qui peut être intéressante pour l'homme d'église que vous êtes, c'est que les chiffres ou les viols, depuis des années, sont en baisse. C'est dans les années 50, 60, 70, 80 que les chiffres étaient les plus importants. Je dis d'ailleurs les chiffres, je devrais dire les agressions sexuelles.
Oh, vous savez, il n'y en aurait qu'un, ça serait déjà un trop. Hein. Non, mais moi j'aime ce que dit Janvier, vous êtes toujours là Janvier.
Oui,
vous savez, monsieur Macron, il a dit qu'il fallait, quoi qu'il en coûte, il disait. Eh bien, on est un peu dans cette même démarche, nous, dans l'Église. Quoi qu'il en coûte, même pour notre réputation, à nous les prêtres, même pour affronter cette vérité, quoi qu'il en coûte, on affrontera la vérité parce que ça rend libre, la vérité.
Monsieur l'abbé, vous êtes prêtre depuis combien de temps ?
19 ans, exactement. J'étais ordonné en 2002. Donc, autant vous dire que le sujet de la pédophilie, on connaît. Hein, on connaît.
Est-ce que, quand vous dites que vous êtes, j'allais dire, formé, parfois, oui. En tout cas, au petit séminaire, sans doute, ou lors de votre...
Alors, ça n'existe plus trop, les petits séminaires. J'ai eu le grand séminaire, on a 8 ans de formation. Et au cours de cette formation, on est formé par des psychologues, des psychiatres. Il n'y a pas que des théologiens, des philosophes. Il y a aussi des sexologues. On est aussi formé à la vie affective pour affronter à la fois ce monde, les tentations du monde, et puis aussi vivre sereinement le célibat. Donc... voilà, c'est cette question de la gestion de notre sexualité et aussi
oui, mais, là,
des gestes prudentiels.
En même temps que je vous écoutais, la pédophilie, c'est pas une sexualité, si j'ose dire, c'est un crime.
Ah, mais c'est une déviance, c'est
dramatique. Voilà, c'est pour ça que même
prédateurs.
Ce que vous dites peut m'étonner d'une certaine manière. Vous dites on est formé à la sexualité. La pédophilie, c'est pas une sexualité.
C'est un drame et c'est
oui,
un crime.
C'est un crime. Donc. On va continuer évidemment ce débat. David est là, Elisabeth également est là. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
C'est le sujet. Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. L'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'Église catholique de France depuis 1950. 330 000 personnes victimes d'abus sexuels quand elles étaient mineures, de prêtres, de religieux, de laïcs en mission dans l'Église.
Ça représente 6% des violences sexuelles commises sur mineurs en France, juste derrière les violences dans le cadre familial et amical, mais devant le milieu scolaire, les centres de vacances, le sport, à l'école publique en comparaison. On est à 141 000 victimes estimées.
Le président de la Conférence des évêques de France a demandé pardon aux victimes.
Aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de prêtres, de religieux, de religieuses ou d'autres personnes dans l'Église, j'exprime ma honte, mon effroi. Mon désir en ce jour est de vous demander pardon. Pardon à chacune et à chacun.
Vous faites partie de ces victimes, venez témoigner dans l'émission. Faut-il aussi une réparation financière? 3210, 3210.
Et le père Amar est resté avec nous, il est prêtre dans les Yvelines, il est prêtre depuis 19 ans. D'ailleurs, monsieur l'abbé, est-ce que vous avez été confronté à un témoignage? Est-ce que quelqu'un un jour est venu vers vous et vous a dit « j'ai été victime ou d'un prêtre ou même d'un membre de ma famille ou de quelqu'un d'autre ?» Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de témoignage?
Oui, hélas, oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que sous la confession, sous le secret de la confession, vous ne pouvez pas parler.
Alors c'était en dehors d'une confession, c'est surtout la confidence voilà, d'une victime qui est venue me voir. J'ai immédiatement appelé mon évêque, appelé ceux qui sont responsables de l'écoute de toutes ces personnes. Vous savez, quand on est devant le drame, on n'a que deux attitudes possibles, l'écoute et la compassion. Parce que les mots sont tellement,
et puis agir
tellement
aussi.
Limités.
Agir, peut-être. Alors, mais là, c'était une personne qui avait été violée par un membre de l'Église.
Alors, le but, c'est pas non plus de d'exprimer ici pour tous.
Non, mais comme
auditeurs,
c'est anonyme, c'est intéressant. Je veux dire, c'est la personne.
Oui, mais on est tenu aussi au secret des personnes, et je pense notamment s'il y a des victimes qui nous écoutent, je pense déjà à la violence de ce qui se passe pour elles depuis ce matin, et puis aussi.
Oui,
mais
on essaye de comprendre, Monsieur Abar. Là,
bien sûr.
Comme c'est anonyme le témoignage, ce qui m'intéresse, c'est votre. Ce qui m'intéresse en fait dans ma question, c'est votre réaction à vous. Est-ce que lorsque quelqu'un vient vous dire au sein de votre église, j'ai été violé ou agressé sexuellement,
sexuellement. Est-ce que vous réagissez? Et est-ce que vous allez voir l'évêque? Et est-ce que vous déclenchez quelque chose? C'est ça qui m'intéresse. Alors,
immédiatement, je l'encourage à porter plainte. Immédiatement.
Et même si c'était sous le secret de la confession?
Ah ben évidemment. Évidemment.
Mais vous n'iriez pas vous-même porter plainte?
Si c'est une, vous savez que la loi en fait est assez claire. Si c'est une personne mineure, je peux le faire. Mais si la personne est majeure, c'est à elle de le faire. Et vous savez, même en interne chez nous, les normes aujourd'hui sont extrêmement exigeantes, beaucoup plus d'ailleurs qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, si un prêtre est accusé de gestes ou d'attitudes sur des enfants, d'abus, etc., il est immédiatement signalé au procureur, c'est-à-dire que l'évêque le fait lui-même, et il est immédiatement mis en congé de son ministère pastoral, de son service de prêtre, de curé de paroisse, c'est-à-dire que immédiatement, il y a des mesures conservatoires.
Et c'est important de le dire. Alors, David est avec nous. Bonjour, David, et merci de témoigner. Bonjour.
Oui, bonjour, Pascal.
Votre sentiment sur cette information du jour?
Mon sentiment, évidemment, c'est l'épouvante. 330 000 depuis 1950. J'ose imaginer le chiffre depuis 2000 ans. Ça doit être épouvantable, mais je pense qu'on s'attaque pas au vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'une église qui a réformé et frustré des hommes et des femmes en subit les conséquences. C'est-à-dire que des hommes et des femmes frustrés sexuellement s'en prennent à ce qu'ils ont sous la main.
C'est faux.
Pour
c'est
parler faux. Clairement, et voilà le drame.
Non, je peux pas. David, je peux pas vous laisser dire ça.
Eh ben, vous pouvez pas, mais à l'origine, les prêtres avaient le droit de se marier. Et je pense que, par exemple, chez les protestants qui se marient, qui ont des enfants, qui ont des vies, équilibrées, ne vont pas s'en prendre à des enfants. Un homme David, a des besoins, les femmes aussi, et je pense qu'il y a un rapport évident.
David, je ne peux pas vous laisser dire ça, et notamment parce que Amandine et d'autres femmes nous écoutent. Penser que la femme est là pour satisfaire les frustrations sexuelles de son mari, vous vous rendez compte, c'est abject.
Ben, c'est pas du tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ont des besoins sexuels. Et quand une église impose à des prêtres le célibat, ou à des bonnes sœurs le célibat, c'est aussi leur enlever quelque chose qui est, comment dire, incontrôlable.
On a besoin de tendresse. Oui, sauf que Pascal le disait tout à l'heure. Pascal Praud le disait tout à l'heure, la pédophilie, c'est pas une expression sexuelle.
Oui, c'est ça qui m'ennuie un peu dans votre discours, David. Il est même très dangereux, en fait, votre discours.
Pascal, ils s'en prennent à des enfants parce que...
Non, mais c'est très dangereux ce que vous dites, David. Moi, je trouve que c'est très, très dangereux ce que vous dites. Vous dites, au fond, que la pédophilie serait une sexualité comme une autre.
Non, c'est pas ce que je suis en train de dire.
Non, c'est ce que ça sous-entend.
Et
parce que ces mêmes prêtres pourraient avoir une vie sexuelle en dehors, des canons de l'Église qui leur interdit d'avoir des relations sexuelles. Et j'imagine que dans l'histoire, et même aujourd'hui, David, j'imagine qu'il y a des prêtres. Je sais pas combien il y a de prêtres aujourd'hui, Monsieur l'abbé, en France.
En France, on est 10 000.
Bon, allez, j'imagine 000. Que ouais. des prêtres aujourd'hui, bien sûr, ont peut-être des relations sexuelles avec des hommes, avec des femmes.
Des histoires d'amour, évidemment, bien sûr. David. Oui.
Mais le lien que vous faites entre je ne peux pas avoir de relations sexuelles parce que je suis prêtre et je m'en prends à des enfants, je pense que ce lien est même dangereux parce que vous feriez même en sous-texte, vous faites un rapprochement entre l'homosexualité et la pédophilie. Et ça me paraît extrêmement dangereux, David.
Oui, moi aussi, oui.
On va marquer une pause si vous voulez bien. Il est 13h17, on marque une pause et nous reprenons ce débat.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va terminer avec David qui a une position un peu iconoclaste, qui met un lien entre...
Non.
J'ai pas terminé ma phrase en même temps. Mais je voulais résumer votre position.
Je rebondis parce que je ne peux pas faire d'amalgame entre homosexuel et pédophile parce que je suis moi-même homosexuel. Et en aucun cas, je ne fais de rapprochement. Je parlais juste de désir, rien de plus. Et en aucun cas, je ne justifie le fait que les prêtres soient assimilés tous à des pédophiles. Enfin,
j'ai pas dit ça non plus. Hein. Je ne crois pas. Mais vous, vous dites, il faut que les prêtres puissent se marier pour qu'il n'y ait plus de pédophilie dans l'Église.
Non, je pense que s'ils avaient ouvertement...
Et ça, je trouve que c'est contestable.
Non, mais s'ils avaient le droit de vivre ouvertement leur sexualité, quelle qu'elle soit, ils seraient peut-être moins frustrés, plus équilibrés, c'est tout.
Bah écoutez, c'est là que nous n'étions pas tout à fait d'accord. Merci en tout cas, David, de votre témoignage. Monsieur l'abbé va rester encore avec nous, le père Amar, qui est prêtre dans les Yvelines et qui va pouvoir réagir au témoignage d'Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Et merci,
bonjour tout le monde.
Bonjour Elisabeth.
Je suis furieuse.
Ah bon ? Pourquoi ?
Ah oui, bah après l'église.
Oui.
Bon, parce que ce silence assourdissant, on savait depuis longtemps. Enfin, l'Église a fait quelque chose. Il est temps, il est temps. Mais c'est pas d'hier, c'est pas d'avant-hier. Et regardez l'exemple, là, le père Barbarin. Non, mais tout de suite, fallait qu'il accuse et qu'il démissionne. Mais non, il a continué. On se cache, on le voit dans l'Église catholique. On le voit, ça c'est sûr. Ah, on a de la compassion. Mais on s'en fiche de la compassion. C'est effrayant. Ces crimes envers des enfants. Bon, et alors le père Amar, je reviens sur ce qu'il a dit, parce que je suis scandalisée qu'on fasse des comparaisons entre la population générale et les religieux. Parce qu'effectivement, les religieux sont supposés avoir une très grande vocation pour être prêtres. Une formation qui doit leur permettre de traiter en amont tous ces problèmes, cette sexualité si on veut, mais aussi d'attirance morbide, malsaine, et ces pulsions malsaines. On doit les traiter, on ne doit pas se couvrir les yeux. Ils les traitent peut-être, mais alors c'est mal parti. Et alors j'ai remarqué aussi, puis arrête, que depuis 1950, mais en 1950, qu'est-ce qu'il y avait le petit séminaire et le grand séminaire? Il y avait beaucoup de familles à l'époque, j'en connaissais, qui mettaient ces garçons où? Au petit séminaire. On ne savait pas s'ils avaient la vocation ou pas. C'était leur ligne, et paf, ils étaient au petit séminaire, et après ils étaient prêtres. On est d'accord. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup plus les prêtres qui on appelle vocation tardive, car ils ont vécu, ils ont regardé l'évêque de Paris, il n'est pas un médecin, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont eu une vie avant, et là ils savent à quoi ils s'engagent.
Bon. Vous avez parlé du cardinal Barbarin, je précise qu'il a démissionné.
Il a mis le temps, hein.
Il a démissionné et sa démission est acceptée par le pape François en mars 2020.
Ça a été long, hein. Il n'a pas reconnu les faits.
Je précise qu'il n'a pas été condamné, hein. Je précise, il a été relaxé.
Mais dès qu'il a su les faits, combien d'années il a su les faits, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit.
Elisabeth, je suis d'accord avec vous. On a souvent parlé à ce micro du film Grâce à Dieu, le mot qu'il avait utilisé en disant les faits sont prescrits grâce à Dieu. C'était l'affaire du père Prénat. Donc c'est une affaire très révélatrice de l'attitude de l'Église pendant des années. Je suis d'accord. Je tiens à préciser donc qu'il a démissionné. Depuis 2020, il est dans l'archidiocèse de Rennes où il est aumônier de la maison mère des Petites Sœurs des Pauvres à Saint-Perne en Ille-et-Vilaine, et il donne des cours sur l'Église à des séminaristes indiquant enseigner la foi. Ça me plaît. Je tenais à le dire.
Oui, c'est la théologie, mais il faut les faire. Alors, vous savez, avant aussi, on parlait des prêtres, et ce terme me choque toujours, des prêtres défroqués. Moi, je me souviens, on était choqués, vous rendez compte, un prêtre quittait quittait son sacerdoce pour aller se marier. Bon, mais ça, c'était pas choquant, il n'y avait pas d'hypocrisie. Ce prêtre, il avait rencontré le grand amour. Bon, et c'est pas pour ça qu'il quittait la religion. D'ailleurs, je vais vous dire franchement, j'aurais pas aimé épouser un prêtre défroqué, enfin un prêtre. Ça doit pas être marrant pour la femme, hein, quand même. Bon, enfin, j'en sais rien.
Il faut Elisabeth, ni vous ni moi, il faut savoir si, comme vous dites, c'est marrant d'être avec un prêtre défroqué, c'est pas l'expression que j'aurais employée, mais parfois c'est pas non plus marrant d'être avec un homme tout court qui n'est ni prêtre ni défroqué, si vous me permettez.
Il faut avoir une foi extraordinaire quand même, il faut, parce que ce prêtre qui se marie, il a toujours cette foi extraordinaire qu'il a, voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, un prêtre, c'est un homme différent, c'est là où j'ai peut-être tort, si vous voulez.
Mais différent, on est tous différents. Moi, je pense que le père Amar, il ne pense pas qu'il soit différent. Je ne pense pas qu'il se vit comme ça.
Il n'y a plus de distance.
J'entends la colère. J'entends la colère d'Elisabeth, surtout, moi. Et je la partage, en fait. La colère, votre colère, Elisabeth, elle est la mienne aussi. Vous n'imaginez pas. Moi, c'est ma vie, vous vous rendez compte? C'est pas juste un métier, prêtre. C'est ma vie, moi. J'ai donné ma vie pour les autres. Et de savoir que des frères prêtres aient pu trahir cet engagement, mais je suis dans une immense colère, moi. Une immense colère. Vous n'imaginez pas.
Oui, mais pourquoi? quand quelqu'un, un enfant ou je sais pas, une personne vous dit voilà ce qui s'est passé, pourquoi vous n'agissez pas tout de suite? Voir l'évêque, d'accord, mais dire à l'évêque, écoutez mon père, vous faites quelque chose, ou alors c'est moi qui fais quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors on l'a dit juste avant, on savait que nous on n'a pas peur aujourd'hui d'inviter les victimes à porter plainte, et si elles le font pas, on le fait. Non, aujourd'hui oui. les protocoles sont assez clairs, mais ils sont tardifs, je suis
oui.
d'accord.
Oui, mais il y a également, au-delà de l'Église, si vous me permettez, il y a la pédophilie qui a longtemps été un tabou français. C'est-à-dire que dans des milieux très favorisés, très intellectuels, rappelez-vous les années 70, vous avez un célèbre homme politique et chroniqueur d'ailleurs sur une chaîne aujourd'hui, une chaîne d'information qui faisait l'apologie de la pédophilie dans des émissions de Bernard Pivot. Vous avez eu l'affaire Duhamel ces derniers temps, qui a secoué effectivement l'opinion publique parce que vous vous apercevez que dans des milieux très favorisés, un homme a abusé, en l'occurrence, de son beau-fils.
Mais ils n'ont pas eu la vocation, ils n'ont pas été formés au séminaire.
Je suis d'accord avec vous, mais j'élargissais ce débat en soulignant combien la pédophilie a parfois... On se souvient des papiers de Libération dans les années 70, où on disait « Apprenez à aimer votre enfant et avoir des relations sexuelles avec lui à moins de 13 ans ». C'était ça
Pascal,
le bain...
Mais...
culturel de la
Pascal
France post-68, monsieur l'abbé.
Pascal Praud, là où Elisabeth a raison, c'est que c'est encore plus grave quand c'est un prêtre. Un prêtre ne devrait pas faire ça. Et la raison.
Et personne ne devrait faire ça. Vous
on
dites c'est plus grave. Bien sûr,
prêtre,
c'est un crime, bien sûr. Alors effectivement, il y a peut-être un magistère moral pour le prêtre qui le met au-dessus dans votre hiérarchie des autres hommes, mais évidemment c'est un crime.
C'est comme un pompier pyromane ou un flic corrompu. Ça va pas ensemble, si vous voulez. C'est pas possible.
Ben merci monsieur l'abbé, en tout cas c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis il y a ce sujet qui revient régulièrement sur la sexualité des hommes d'église qui font vœu de chasteté, hommes ou femmes d'ailleurs, et qui effectivement, j'allais dire je ne sais pas comment vous le vivez, et ça c'est un sujet tout à fait parallèle à celui que nous avons aujourd'hui monsieur l'abbé, mais c'est un sujet effectivement, c'est un sujet je pense qui est toujours un sujet de curiosité pour les uns et les autres, et j'imagine que chaque jour, lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous déjeunez avec quelqu'un, immédiatement ce sujet vient sur la table.
Oui, le célibat souvent, c'est-à-dire très rapidement. Moi, je crois que on peut pas manger, on peut pas vivre sur Terre sans manger, boire, dormir. Ça, c'est vital. Mais on peut vivre sans activité sexuelle. Sinon, moi, je serais mort depuis longtemps. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut pas vivre heureux sans se donner d'une façon ou d'une autre. Voilà vraiment, il me semble que ce dont l'homme a besoin d'abord, trouver comment se donner et comment vivre le don de soi. Mais là, il y a un sujet pour des heures ensemble.
Mais bien sûr, sur la sexualité, bien sûr. Et est-ce qu'on peut vivre sans sexualité?
Et le don de soi. De soi-même.
Bah, moi, j'ai fait don de mon corps aux auditeurs d'RTL. Quoi, de mon corps
Pardon, je souris, mais le sujet est grave, mais la phrase me fait rire. Je suis très heureux de voir que votre sacerdoce se vit sur RTL.
Parce que c'est notre métier, ça, sacerdoce. Mais parce qu'il faut un peu sourire sur des sujets parfois qui sont aussi lourds et légers. Mais c'est vrai que la pédophilie est un crime absolu. Et ce qui est tout à fait incroyable, ce sont les témoignages de ces gens qui ont été agressés à 11 ans, 12 ans, 13 ans, et toute leur vie, ne peuvent pas évidemment retrouver ou une sexualité normale et tout simplement d'ailleurs une vie normale. On va en parler dans une seconde, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et toujours Laurent Tessier. 330 000 personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique de France quand elles étaient mineures. C'est le constat terrifiant dévoilé par le rapport de la Commission Sauvé. Elisabeth vient d'exprimer sa colère au 32-10.
Je suis furieuse. Bah après l'Église.
Oui.
Bon, parce que ce silence assourdissant, on savait depuis longtemps. On a de la compassion. Mais on s'en fiche de la compassion. C'est effrayant, ces crimes envers des enfants.
Le rapport Sauvé dénonce l'indifférence cruelle de l'Église catholique à l'égard des victimes jusqu'au début 2000. La réaction du père Pierre Amar, prêtre dans les Yvelines. Il était votre invité, Pascal, dans RTL Midi, et les auditeurs ont la parole.
Je suis consterné. Je suis consterné parce qu'un prêtre, ça ne devrait pas être ça. Et je pense à l'immense courage des victimes. En fait, ce ne sont pas des victimes, ce ne sont pas juste des victimes, ce sont des survivants. Comment ils ont pu rompre la chape de silence? On n'a pas su les voir, on n'a pas su les entendre, on n'a pas su capter leurs signaux. En fait, je vais vous dire, j'ai même honte pour mon église, en fait. J'ai honte, en fait.
Vous faites partie des victimes. Appelez-nous pour témoigner au 3010.
Et justement, c'est le cas de Claude. Bonjour, Claude.
Bonjour, monsieur Pro.
Et merci de témoigner. Vous avez 80 ans. Que vous est-il arrivé?
Mais écoutez, je vous remercie de m'accueillir à nouveau parce que je vous ai déjà appelé.
Je me souviens.
Il y a une année, oui. Mon histoire, elle est terrible parce que j'ai été violé pendant 3 ans et demi par un monsieur qui s'est arrangé à devenir le meilleur ami de mes parents. Et on s'est aperçu au bout de 2 ans que c'était un ancien prêtre qui avait été viré de son institution parce que justement il avait déjà violé des enfants.
C'était en quelle année ?
C'était en 56.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 15 ans.
Donc un âge où vous pouviez répondre et vous pouviez parler à vos parents ?
Non. Non, c'était pas possible. Mmh. Ce qui m'est arrivé, c'était pas racontable. Ce n'était pas, même la première fois, la deuxième, les fois suivantes, c'était pas. Je pouvais pas raconter ça à mes parents. Je suis sûr que ma mère, elle serait morte de chagrin. Mon père, qu'est-ce qu'il aurait pris ? Il aurait pris son fusil, il serait allé le tuer. Mmh. C'était pas possible. Alors justement, c'est toujours la question. On se dit, mais pourquoi vous avez attendu des années avant de parler ? Parce que bon, j'avais mes parents, j'avais la famille, j'avais les amis. Et puis on se dit, mais on va jamais croire ce que je raconte. C'est toujours pareil.
Parce que ce n'était pas audible à cette époque-là.
Mais non.
Aujourd'hui, un gosse de 15 ans qui est agressé sexuellement, je pense que les choses sont différentes. Parce que la parole s'est libérée, parce que les médias ont parlé depuis des années de ces sujets-là.
Oui,
que les parents ont préparé parfois les enfants, très souvent. Évidemment, les parents disent aujourd'hui à leur enfant, lorsqu'il est à l'école, lorsqu'il est dans une institution sportive, lorsqu'il est, pourquoi pas, avec des hommes d'église, attention, voilà ce qui peut arriver.
Les enfants sont, entre guillemets,
prévenus.
Oui.
À l'époque, cette parole-là n'existait pas, elle était taboue.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Et en plus, bon, ce salaud me faisait du chantage parce que... en fait, le petit salopard dans l'histoire, c'était pas lui, c'était moi.
Là, c'est le principe des pervers qui culpabilisent.
C'était machiavélique, la façon, tout ce qu'il a pu inventer, tout ce qu'il a pu faire, mais c'était.
Mais il nourrissait toujours la relation avec vos parents en même temps qu'il abusait de vous.
Il passait voir mes parents parce que entre-temps, moi, j'avais dû. Mon père étant tombé malade, donc je suis venu travailler sur Paris. Donc naturellement, il m'a logé chez lui. Et ça, c'était l'erreur à ne pas faire.
Bah, et vous ne parliez à personne de cela ?
J'ai parlé à personne de cela, non.
Donc ça a duré entre 15 et 18 ans ?
18 ans et demi, oui.
Pourquoi ça s'est arrêté ? Comment ça s'est arrêté ?
Alors ça s'est arrêté, je vais vous dire. Parce que donc j'habitais une petite chambre de bonne dans rue de Rivoli. Et il se trouve qu'une amie de mes parents travaillait à Paris au magasin du Louvre. Donc j'allais la voir de temps en temps. Et elle s'est aperçue que, bon, à chaque fois que je venais la voir, j'avais les yeux rouges, etc., etc. Et elle m'a demandé un jour de lui présenter ce monsieur. Et quelques jours après, elle m'a dit, bon, écoute, tu peux plus rester chez lui, parce que je suppose que... J'ai dit, mais non, c'est pas... J'ai pas voulu... Et donc, c'est grâce à elle, elle m'a trouvé un autre logement, elle s'est portée caution, elle a payé les loyers, etc., de façon à ce que je sois... Mais malgré ça, il a réussi à me retrouver.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh ben ce qui s'est passé, c'est que ça a été je me suis pas laissé faire. J'ai essayé de le tuer 2 fois.
Mais est-ce que vous avez imaginé, par exemple, aller à la police ?
Alors oui. Alors vous savez ce que j'ai fait un soir après qu'il ait fait, enfin comme d'habitude, je suis sorti à toute vitesse. Je vous assure que c'est la vérité. J'avais juste un petit t-shirt sur moi, j'étais absolument nu, pieds nus, rien du tout. Et on habitait au 7e étage. Je me suis sauvé dans le couloir, il a compris tout de suite ce que j'allais le faire, et il m'a rattrapé.
On va poursuivre évidemment pour savoir comment après la vie s'est déroulée, parce qu'on parle souvent des conséquences d'enfants qui sont agressés sexuellement. Et vous nous direz, Claude, si vous avez pu avoir une vie, j'ai envie de dire classique, le mot normal je ne l'aime pas forcément, mais classique, ou est-ce qu'au contraire ces années-là ont été un traumatisme tel qu'ils ont empêché une vie harmonieuse. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On termine avec le témoignage de Claude. Claude qui a 80 ans, qui a été abusé par un prêtre entre 15 et 18 ans. Ça s'est arrêté, heureusement. À 19 ans, si j'ai bien compris, Claude.
Oui,
parce
à
que
19 vous... ans, oui, oui, j'ai réussi à m'échapper, oui.
Bon, d'abord cet homme, est-ce que vous savez ce qu'il est devenu? Est-ce que vous avez porté plainte contre lui? Est-ce que vous
non,
dites que vous avez voulu
porté
le tuer
plainte,
deux fois?
Alors justement, ça c'est un sujet sur lequel je voudrais bien revenir. Bon, à cette époque-là, les téléphones, j'avais pas de téléphone, les portables, ça n'existait pas. Donc j'ai téléphoné à plusieurs reprises, à l'évêché, enfin à Paris, toutes les sociétés de religieuses. À chaque fois, c'était la même réponse. Mais monsieur, mais c'est pas possible ce que vous me racontez. Mmh. Ça n'existe pas chez nous.
Donc cet homme n'a pas été inquiété jusqu'à sa mort?
Je pense pas. Parce qu'après, bon, moi j'ai essayé d'avoir une vie, bah, comme je vous dis, non, j'ai pas pu avoir de vie normale, c'est pas possible. Moi, ma vie, elle s'est arrêtée quand j'avais 15 ans, vous comprenez ça?
C'est-à-dire que, quand vous dites elle s'est arrêtée, c'est-à-dire que vous n'avez pas été marié?
Si, j'ai été marié, j'ai essayé. La première femme qui est passée, j'ai dit bon, je vais essayer. J'ai tenu le coup longtemps. Et puis bon, ben, on a divorcé, je me retrouve tout seul.
Et sans entrer dans les détails, vous considérez que vous n'avez pas pu avoir une sexualité épanouie?
Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est.
Je ne sais pas quoi vous dire, Claude. Je ne sais pas quoi vous répondre à cette phrase. Je ne sais pas quoi vous répondre.
J'ai eu quand même deux enfants, parce que bon, c'est une femme qui voulait des enfants. Bon, bah, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je vous dis, bon, on s'est séparés.
Mais vous en avez parlé avec elle lorsque je vous parle de sexualité épanouie?
J'ai essayé, mais bon... Je racontais des histoires, quoi. Ça ne l'intéressait pas, elle s'en foutait.
Et depuis le départ de cette femme, vous n'avez plus d'aventure?
J'ai essayé, mais ça n'a pas marché.
Merci Claude de votre témoignage, de votre franchise et de votre sincérité.
Moi qui vous remercie, monsieur.
Mais non,
je peux ajouter un petit mot.
Je vous en prie.
C'est ce que j'ai dit à votre collaborateur tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais, on parle d'indemniser les enfants, etc. Bon, tout ça, ça me fait un peu... Non, ça me gêne un peu, parce que déjà l'année dernière, l'Église devait indemniser... les enfants violés, mais ils n'avaient pas d'argent. Donc, il veut faire des quêtes parmi les fidèles. Alors ça, je trouve que c'est quand même un peu grossier quand on sait que le Vatican, c'est quand même une puissance financière énorme. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, maintenant, on fait faire des prières pour ces enfants. Mais moi, ces prières, j'en ai rien à faire. Parce que vous pensez bien que je ne vois pas la main de Dieu quand un enfant se fait violer et qu'il est assassiné. Ça, pour moi, Dieu n'existe pas.
Ben merci, Claude. Merci de votre témoignage. Nous allons marquer peut-être une petite pause. C'est toujours difficile d'enchaîner parce que j'aime bien aller voir notre ami Olivier pour plus de légèreté dans notre émission. Mais vous comprendrez que ça ne sera pas le cas aujourd'hui avec un sujet aussi grave, Olivier. J'imagine qu'il y a beaucoup de témoignages sur la page Facebook.
Exactement, Pascal. Bonjour, bonjour à tous. Sur nos réseaux sociaux, pour Nathalie, ce n'est que le résultat de la privation de la sexualité. Il faut absolument que l'Église fasse le ménage dans ses rangs.
Oui, c'est très dangereux ça, hein. de mettre un lien entre la pédophilie et l'absence de sexualité des prêtres, parce que ça serait considéré, je l'ai dit, faire un parallèle dangereux. La pédophilie, c'est pas une sexualité, c'est un crime, et ça serait également faire un parallèle dangereux entre l'homosexualité et la pédophilie. Donc ça fait deux fois qu'il y a ce type de témoignage, mais il faut être très prudent, je trouve, sur ce rapport qui est fait.
Marie nous écrit « Ce qui est le plus choquant, c'est le fait que des personnes ayant des responsabilités morales et spirituelles profitent de leur statut. » Et on termine avec Catherine. « Ce rapport permet de faire parler les victimes et ça, c'est une bonne chose. »
La pause et William Galibert est avec nous. Ça va être un sujet infiniment plus léger.
Ah oui.
La présidentielle, ça fait causer la présidentielle. Parce qu'en fait, tout le monde se projette, tout le monde pronostique. C'est le jeu d'ailleurs, qu'on soit journaliste ou pas. Et on imagine, on aimerait en fait ne pas se tromper pour pouvoir dire le 25 avril, je vous l'avais dit. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Monsieur Tessier, est-ce que la présidentielle est lancée?
Eh bien, en tout cas, nous sommes à 6 mois du premier
six
tour.
6 mois pile.
De l'élection présidentielle. Exactement. Et depuis ce matin, s'il vous plaît.
Vous mettez la Marseillaise maintenant. Quand vous arrivez,
William
vous mettez
Galibert
la Marseillaise.
Là, je mets la Marseillaise.
Non, mais vous avez pris un peu. Si c'est, quand vous parlez, vous mettez la Marseillaise
oui,
derrière
ça,
vous.
Ça me permet de me porter dans mes discours, dans mes paroles.
Porter.
Depuis ce matin, RTL s'intéresse à vos attentes. Quelles sont vos préoccupations au quotidien? Pensez-vous déjà à l'élection présidentielle? Vous intéressez-vous, tiens, au candidat? Savez-vous pour qui vous allez voter? Peut-on déjà faire un pronostic du premier tour? Adélaïde Sulfikar-Passic, directrice du département opinion de BVA, était l'invitée de RTL Petit Matin.
L'offre politique n'est pas du tout encore stabilisée. Elle commence à se dessiner, notamment à gauche. On y voit plus clair depuis la primaire écolo avec la candidature de Yannick Jadot. Et à droite, on n'a pas encore le candidat LR, mais il est beaucoup trop tôt pour se projeter sur le premier tour de la présidentielle dans une perspective de pronostic, on va dire.
Parlons ensemble du premier tour de l'élection présidentielle au 32-10.
Et nous allons prendre une première auditrice. Elle est étudiante en droit. Bonjour. Je ne vais pas dire votre prénom tout de suite, mais je vais vous demander si vous aimez votre prénom.
Oui. Et ça ne me pose aucun problème de m'appeler de cette façon-là. Je n'y vois aucune connotation politique.
Voilà, et vous appelez Marine. C'est pour ça que je souris, mais c'est vrai que dans votre génération, il y a beaucoup de Marine. Vous êtes étudiante en droit. Est-ce que, Marine, vous avez déjà fait votre choix?
Non, pas vraiment.
Est-ce qu'il y a quand même des pistes?
Non, aucune.
Ah bon? Aucune piste. Vous ne savez pas si vous allez voter Mélenchon ou Marine Le Pen?
Ah si, quand même, j'ai des idées d'orientation, mais j'ai pas d'idées précises par rapport au candidat.
Bah, vous votez à droite ou à gauche? On va essayer d'éliminer.
Plutôt à gauche.
Plutôt à gauche. Bon, plutôt Mélenchon, plutôt Jadot, plutôt Anne Hidalgo, plutôt Macron.
Non, peut-être plutôt Jadot.
Mais Pascal, c'est dur. Pardon, Marine, je me permets.
Alors, je présente William Galibert, qui était avec nous, évidemment, tout à l'heure dans le journal de 12h30 et qui va nous accompagner. Pourquoi vous dites non,
c'est difficile parce qu'on est au mois de septembre, au mois d'octobre, pardon, on est à 6 mois de la présidentielle et on n'a pas encore la ligne de départ, là. Si Marine est plutôt portée vers les candidats de gauche, on ne sait pas qui va rester au mois de janvier, là. Moi, je ne peux pas vous dire si Arnaud Montebourg, si Anne Hidalgo, si leurs aventures vont continuer jusqu'en janvier et même après jusqu'à l'élection.
Et on n'a pas non plus toute l'étendue du programme politique de chacun des candidats, donc c'est d'autant plus difficile de se positionner complètement.
Alors, je vais poser la question différemment, Marine. Quel est le premier sujet qui vous intéresse le plus dans cette présidentielle?
Puisque je suis concernée, j'aurais tendance à dire que c'est surtout la jeunesse et aussi un petit peu l'écologie. Parce que c'est des domaines qui, à mon avis, sont pas forcément assez mis en avant actuellement, et d'autant plus avec la crise sanitaire, parce que moi, je suis étudiante, donc la jeunesse, je sais qu'elle a subi la crise sanitaire de plein fouet, et je pense que ça serait important de mettre cette population-là au centre de la campagne, déjà parce que il y a des enjeux vis-à-vis de la jeunesse, et c'est nous qui allons devoir relever un certain nombre de défis, notamment par rapport à l'écologie, par rapport à l'économie aussi. Et par rapport à tout un tas d'autres domaines, le médical, enfin...
Et voilà, sur le plan écologique, quelles sont, alors vous avez dit Jadot, mais quelles sont les mesures qui vous paraissent aujourd'hui indispensables?
Peut-être réfléchir à notre mode de consommation, sans forcément tout le temps axer les choses et les réformes sur le citoyen, peut-être essayer d'impliquer les entreprises davantage, réfléchir aussi... peut-être pas au niveau mondial, parce que je pense que c'est compliqué de faire des normes au niveau mondial, et la COP21, je pense que c'était vraiment une très bonne initiative, mais c'est très difficile d'avoir des initiatives internationales et que tous les pays qui s'engagent les mettent en place. Mais revoir notre façon de consommer par rapport aux énergies, peut-être aussi notre dépendance à l'énergie, et puis par rapport à ce qui se passe aussi actuellement concernant l'augmentation des prix de l'énergie. Parce qu'on parle de l'essence, on parle d'électricité, on parle du gaz, donc tout ça, à mon avis, c'est des choses à mettre en avant et qui doivent être au cœur de la campagne et des débats.
Ben merci Marine pour ces explications, c'est intéressant. William, est-ce qu'on sait déjà si les jeunes ont un candidat ou une option privilégiée? Et alors les jeunes, c'est 18-25 ans. Hein. C'est la première fois que Marine votera pour une présidentielle puisqu'elle a 22 ans. La dernière fois, elle n'avait pas voté. Après 25 ans, on est plus jeune. Est-ce qu'il y a déjà des... En termes politiques, bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà des grandes tendances?
Je crois que d'abord, le premier enjeu, ça va être d'aller faire voter les jeunes. Parce que c'est pas gagné. Et ça, on nous en parle beaucoup quand on fréquente en ce moment la classe politique. C'est déjà... les faire venir jusqu'au bureau de vote et les motiver pour aller voter. Ensuite, grande tendance difficile, parce que je crois que beaucoup de gens marchent aujourd'hui sur des thèmes précis, sur des causes précises. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, en ce moment, les déplacements, les annonces présidentielles ou autres sont très segmentées. On va voir les amoureux des animaux, on va voir les défenseurs de telle ou telle cause. Mmh. Et je ne sais pas si c'est une question d'âge ou de centre d'intérêt.
Écoutez, 13h55, c'est intéressant. Notre ami Jean-Alphonse Richard arrive, parce que traditionnellement, c'est l'heure à laquelle il vient nous donner le programme de l'heure du crime.
Bonjour Pascal.
Bonjour Monsieur Richard. Vous allez bien ?
Ça va très bien, et vous ?
De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Écoutez, vous savez ce qu'est un anthropologue ?
Oui, a priori.
Il connaît tout de votre corps et de votre squelette, normalement.
Oui.
Et ben là, cet anthropologue-là, qui est Monsieur Belchaud, Cyril Belchaud, qui est un Canadien, lui, il se souvient pas si sa femme avait véritablement des dents en or. Or, on va trouver un cadavre dans un fossé en Suisse.
En fait, vous me faites rire, mais c'est horrible ce que vous me racontez.
Vous me racontez toujours des histoires abominables, parce que
j'ai parfois envie de sourire. Je suis un pervers.
Il y a une part toujours grotesque dans le crime, et on peut en sourire. Mais on va trouver ce cadavre dans un fossé en Suisse.
Vous lui avez fait peur,
non identifiable, avec des dents en or. Oui. C'est le début de l'affaire Belchaud. Et ça va être. Ça reste encore une énigme aujourd'hui.
Elle date de quand, cette affaire Belchaud ?
1979.
Bon.
Entre France, Suisse et Canada.
Alors il n'y a plus de.
Cyril Belchaud, c'était à l'époque un des anthropologues les plus connus au monde.
Bon, il n'y a plus de dents en or, de toute façon, aujourd'hui.
Ça se fait plus, il y a de la céramique. Mais on arrive à retrouver avec les empreintes dentaires, c'est toujours très important. Il y a l'ADN, on en parle sans arrêt, etc., qui est la tarte à la crème du crime aujourd'hui. Les empreintes dentaires sont. C'est constitue encore des preuves devant la justice très très puissantes.
Bon, bah écoutez, on va écouter le flash et le rappel.
Et je ne mens pas comme un arracheur de dents.
À jamais.
Voilà.
Bien évidemment. Dans quelques secondes, ce sera le rappel des titres, le flash. Avec Sébastien Rouxel. À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
RTL. Il est quasiment 14h. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Et on commence avec cette prise d'otage toujours en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe. C'est dans l'Orne. Une surveillante a été libérée, mais un gardien blessé à l'œil est toujours retenu par un prisonnier. Il réclame le réexamen de sa peine. Il a été condamné en 2017 à la perpétuité pour viol et tentative de meurtre. Des négociations sont toujours en cours. Ce sont des proches de Rémi Daillet, cette figure des milieux complotistes d'ultra-droite impliqués dans l'enlèvement de la petite Mia en avril dernier. 4 hommes ont été interpellés ce matin. Ils auraient projeté des actions violentes contre une série de lieux symboliques, des centres de vaccination ou encore des antennes 5G. Il est soupçonné d'avoir empoisonné 24 patients, dont 9 mortellement. L'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, a tenté de mettre fin à ses jours, annoncent ses avocats. Il s'est jeté il y a quelques jours d'une fenêtre en hauteur. Son état est jugé critique mais stationnaire. Les associations de victimes attendent désormais des réponses claires et tangibles de l'Église. Après 2 ans et demi demi d'enquête, la commission chargée d'enquêter sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique a dévoilé ce matin son rapport et ses conclusions sont glaçantes. Depuis les années 50, au moins 330 000 mineurs ont été agressés sexuellement par des prêtres, religieux et laïcs en mission. Le président de la Conférence des évêques de France exprime sa honte, son effroi et demande pardon. C'est une première depuis la crise des sous-marins. Emmanuel Macron a reçu un responsable américain, Anthony Blinken, en l'occurrence l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. L'objectif affiché, restaurer la confiance entre la France et les États-Unis. Le coup d'envoi dans les toutes prochaines minutes de la manifestation parisienne pour la défense du pouvoir d'achat. Grande journée de grève et de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats et d'organisations de jeunes. Plusieurs milliers de personnes ont déjà défilé ce matin à Toulouse, Nantes, Angers ou encore Bordeaux. Et puis on l'apprend à l'instant, le prix Goncourt se fixe une nouvelle règle. Les livres de proches des jurés seront désormais inéligibles. La météo demain, nette amélioration sur une grande partie du pays. On aura encore quelques gouttes et beaucoup de nuages près des frontières du Nord. Ce sera aussi très nuageux dans la moitié ouest, près des Pyrénées également. Dans la moitié ouest, retour d'un temps sec avec de belles éclaircies et puis du soleil autour de la Méditerranée. Côté température, demain après-midi, on aura 14 à 18 au nord, 17 à 23 au sud. La course du Quintet pour finir. C'était à Chantilly cet après-midi. Je vous donne l'arrivée provisoire. Le 10, l'As, le 14, le 7 et le 2. RTL, 14h et 2 minutes. On vous retrouve Pascal Praud pour la suite des auditeurs.
Merci Sébastien.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Nous sommes avec William Galibert du service politique de RTL et nous sommes à 6 mois de la présidentielle et William nous accompagne et peut évidemment échanger avec les auditeurs. Paul, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes chef d'entreprise dans le Var.
Exact.
Bon, manifestement vous avez fait votre choix déjà.
Ah ben oui. Hein.
Et quel sera ce choix? Parce que c'est étonnant de faire un choix. On est aujourd'hui le 5 octobre choix. Et c'est dans 6 mois.
J'ai fait un choix, mais mon choix ne s'est pas déclaré. Alors c'est gênant, quoi.
Ah, j'ai compris quel était votre choix. C'est étrange. Mais, bon, donc vous avez fait le choix de Zemmour.
Ah ben oui. Hein. Ah, oui, dites,
ben oui. Que... Mais avant, vous étiez pour qui?
J'étais toujours de droite. Hein. J'ai été à la création du RPR aussi. Donc, il y a quelques années que je suis dedans, mais je pense que les Français ont besoin d'entendre des paroles claires et nettes.
Mais ce n'était pas ma question. En 2017, vous avez voté pour qui ?
RPR, toujours.
RPR, ouais, c'est-à-dire toujours. François Fillon.
Voilà.
Parce que le RPR existait moins en 2017. Ouais. Bon,
ouais, ouais.
Avant, vous avez voté Nicolas Sarkozy.
Avant, j'étais Sarkozy. Avant,
et vous avez voté,
Chirac.
Évidemment, Jacques Chirac. Vous n'avez jamais voté pour Jean-Marie ou pour Marine Le Pen ?
Non, jamais.
Bon, pourquoi vous votez, par exemple, pour Éric Zemmour et pas pour Marine Le Pen ?
Ben, parce que je trouve que, bon, si vous voulez, moi je connais depuis Jean-Marie Le Pen, quand il était encore sur l'Algérie, il a monté, c'est un fonds de commerce qu'il avait monté, le Front National. Et ce n'est pas du tout il cherche vraiment à avoir la place, on le sentait depuis le départ. Marine Le Pen a repris la succession et on ne la sent pas, je ne sais pas, j'ai quelque chose qui ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors qu'avec Zemmour, d'abord c'est un historien très cultivé, et en plus c'est très clair ce qu'il dit. Et quand on étudie, quand on regarde bien ce qu'il dit, et ben ma foi, ça correspond à ce que veulent énormément de Français. C'est-à-dire en France, on vit à la française. On respecte la France et ça s'arrête là. Alors que beaucoup de candidats sont en train de tergiverser. D'abord, d'une, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on commence à s'attaquer à Éric Zemmour alors qu'il s'est pas encore déclaré. Et quand vous entendez les réunions du LR à Avignon, on l'a traité de... Je trouve ça aussi un petit peu obscène, comme l'a dit ce matin de vos interlocuteurs sur CNews. C'est un petit peu obscène le traité de virus et tout ça. Et on focalise déjà sur Éric
Zemmour.
C'était
pas les Républicains, c'était La République En Marche et c'était Borrello. Jean-Marc Borrello.
On
ne peut pas confondre avec Bardella. C'est Borrello.
Et je ne comprends pas parce que tout ce qu'on nous dit...
Ah si, parce que comme c'est un danger, les gens l'attaquent. Mais
oui, justement,
je vais poser la question à William parce que votre cas, si j'ose dire, m'intéresse. On se demande toujours à qui Éric Zemmour prend des voix. Là, manifestement, c'est il prend des voix aux Républicains. Et on ne sait pas s'il prend plus de voix aux Républicains ou plus de voix au Rassemblement
si
National.
Si on peut se fier aux enquêtes, en tout cas, les dernières enquêtes montrent que oui, Éric Zemmour a tendance plutôt à faire les poches de Marine Le Pen plutôt que celles des Républicains. Je crois qu'on est sur une proportion environ deux tiers de gens qui se disent intéressés par Éric Zemmour qui viennent plutôt du Rassemblement Rassemblement National et plutôt un tiers qui viennent des Républicains. C'est à peu près la proportion.
Donc Paul serait dans ce tiers qui vient des Républicains. Mais votre choix, Paul, il est définitif. Rien ne peut changer si tant est qu'il se déclare, bien sûr.
Si tant est qu'il se déclare, c'est ça le problème.
Mais vous pensez, par exemple, vous n'êtes pas un fan d'Emmanuel Macron ?
Non, j'ai voté Macron au deuxième tour contre Le Pen, ça c'est clair et net. Mais bon,
c'est intéressant votre positionnement. Hein, ouais, c'est vraiment très intéressant même. Donc vous êtes, vous votez contre Marine Le Pen et vous votez pour Éric Zemmour. Et on a le sentiment quand même qu'entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, il y a des passerelles.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de passerelles, mais je pense que Éric Zemmour est plus convaincant et les arguments qu'il nous avance à chaque fois sont très clairs. C'est-à-dire, c'est pas comme on l'a entendu, quand il parle d'islamisme, d'islam, il sait de quoi il parle.
Je suis d'accord, mais il dit un peu la même chose que Marine Le Pen. Mais là aussi, je vais poser la question à William Galibert, parce que moi, j'ai le sentiment que le nom Le Pen était repoussoir. Que quoi qu'il arrive, il y avait des gens qui n'auraient jamais voté Le Pen, que ce soit Marine ou Jean-Marie Le Pen, parce que le nom Le Pen...
Parce qu'on était aussi sur une dynastie...
était repoussoir. Et j'ai l'impression que Zemmour... le nom n'est pas repoussoir de la même manière.
Il a peut-être un visage plus accueillant, moins repoussant que ne pouvait être le nom Le Pen dans les années 80, 90.
Ça, repoussoir par le passé de Le Pen, par les phrases de Le Pen.
Exactement, malgré le changement que Marine Le Pen a voulu impulser à son parti. Donc peut-être que la figure du journaliste, de l'intellectuel, de l'homme d'histoire, de l'homme de lettres est plus accessible ou moins repoussante que n'a pu l'être le patronyme Le Pen.
Merci clair. Paul, c'est très intéressant hein, de vous écouter, ça sera bien comme ça si vous pouvez nous appeler régulièrement pour savoir ce que vous pensez de cette campagne électorale qui est en marche, sans jeu de mots.
Je n'y manquerai pas Pascal, je n'y manquerai pas.
Merci vous êtes encore chef d'entreprise à 70 ans
Je travaille toujours.
Vous êtes en quelle activité ?
Dans la sécurité, je m'occupe de sécurité au Moyen-Orient, en Belgique et en Israël et en Angleterre, pardon.
Et vous avez combien de salariés ?
Ah là, mais c'est de la sécurité privée. On est une trentaine pour l'instant, j'ai 30 employés et ça fait 25 ans qu'on travaille pour des familles.
Donc c'est plutôt florissant.
Voilà.
Donc alors si par exemple il y a un footballeur professionnel en Angleterre qui demande de la sécurité, vous dépêchez vos meilleurs éléments.
Voilà, quand c'est des prix, on dépêche les éléments qu'il faut.
Bon, écoutez, on fera appel à vous, avec William, si on est en danger. Et pour le moment, nous allons marquer une pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tissier, là.
Nous sommes à 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Savez-vous déjà pour qui vous allez voter ? Éric Zemmour, qui n'est pas officiellement candidat, est crédité de 12 à 15% d'intention de vote. Comment l'expliquer ? Adélaïde Zulfikar-Passic, directrice du département opinion de BVA, était l'invitée de RTL Petit Matin.
Il profite de ce qu'on pourrait qualifier des suites du dégagisme auquel on a assisté en 2017. Aujourd'hui, les Français nous disent assez clairement dans les enquêtes d'opinion qu'ils n'aspirent pas à un second tour qu'on leur a annoncé depuis des mois, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Ils aspirent à autre chose. Et Éric Zemmour, c'est un peu cette figure différente, avec un discours un peu différent, une posture différente, qui n'est pas un homme politique traditionnel, qui vient émerger dans ce jeu et séduire une partie d'un électorat un petit peu moins traditionnel.
Savez-vous déjà pour qui vous allez voter ? 32-10, 3-2.
Alors, on ne sait peut-être pas pour qui on va voter, mais on sait pour qui on ne votera pas, j'imagine, parmi ceux qui nous écoutent.
Il y a toujours des repoussoirs. On en parlait tout à l'heure avec le quand on disait que le nom de Le Pen avait pu l'être pendant un moment. En tout cas, les gens que j'ai rencontrés ces derniers temps, rares sont ceux qui savent dire aujourd'hui pour qui ils vont voter, mais ils peuvent vous dire immédiatement si jamais ils ne mettront un bulletin Mélenchon ou jamais ils ne mettront un bulletin Le Pen ou Zemmour dans une urne.
Phileas, bonjour.
Bonjour.
Quel joli prénom, Phileas.
Merci.
Vous voyagez beaucoup, j'imagine.
Exactement, oui, souvent. Le plus que je peux.
Bon. Phileas, vous êtes ambulancier ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est la première fois que vous allez voter pour une élection présidentielle ?
Alors, j'ai voté, moi j'ai 22 ans et j'ai voté en 2017. Je venais d'avoir 18 ans, tout juste, et j'ai voté au présidentiel. Mais je me force, mais j'estime que c'est un devoir d'aller voter dans notre pays, tout simplement.
Bon, est-ce que vous pouvez nous dire pour qui vous aviez voté en 2017 ?
Alors en 2017, honnêtement, moi j'avais voté Mélenchon, mais comme j'avais dit à la personne tout à l'heure, c'était plus un vote lié au par rapport aux parents, parce que je m'étais pas renseigné, on va dire concrètement.
Ah, c'est vos parents qui vous avaient fait voter Mélenchon?
Non, mais je veux dire, on en parle, on discutait de ces sujets-là à table, etc. Et c'est ça qui m'a poussé. Je m'étais pas vraiment intéressé au programme, ou du moins poussé à ce point-là. Et là,
et cette fois-ci.
Et ben voilà, là avec c'est vrai que j'ai avec 4-5 ans de recul, je vois un peu plus les enjeux d'une présidentielle, et je vois tout simplement l'importance que ça a de voter. Alors actuellement, c'est vrai qu'au niveau des moi j'ai pas mon choix n'est pas fait actuellement. J'attends vraiment d'avoir les programmes, le sérieux, le concret. De qui se présente, qui se présente pas, et d'avoir vraiment le programme de chacun.
Mais a priori, il y a plutôt une sensibilité de gauche, quand même.
Oui, oui, maintenant, moi, comme quand je discute...
J'ai l'impression que vous êtes déçu de Jean-Luc Mélenchon.
Je suis pas déçu, c'est juste que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a du bon partout et du mauvais partout.
Ah bah oui, mais ça, et c'est... ça. Alors, ça s'appelle en même temps. Ça s'appelle en même temps, donc vous pouvez voter pour Emmanuel Macron.
Non, ça va aller, j'ai passé 4 ans pas super...
Donc Macron, c'est non?
Non.
Bon, Zemmour.
Pour l'instant, il n'est pas candidat.
D'accord. Bertrand Pécresse, ils sont pas non plus candidats, donc je les sors. Jadot.
Bah après, moi, j'ai pas lu les programmes encore. Hein, donc, comme je vous ai dit, j'ai pas.
Ah ben bah, voilà, c'est de, vous incarnez effectivement. C'est trop tôt pour en parler. Mais William, vous étiez dans un village de France.
Et à Emrin, voilà. Banlieue de Lille.
Et ça m'intéresse, ce village qui vote comme la France. Et on l'a écouté ce matin dans RTL et puis à 12h30 tout à l'heure. Éric Zemmour, par exemple, est-ce qu'on vous en a parlé ou est-ce que ce n'est qu'une construction médiatique parisienne?
Alors là aussi, on va faire dans la nuance, peut-être, entre ni l'un ni l'autre, mais spontanément, jamais le nom d'Éric Zemmour n'est venu spontanément chez les électeurs et chez les habitants d'Emrin que j'ai interrogé. Je les ai interrogés sur Éric Zemmour. Souvent, on ne le lit pas, on ne l'écoute pas même à la télévision. Et chez des électeurs qui pourraient être sensibles à certaines de ces thématiques, on reste plutôt dans un choix ou dans une alternative un peu classique entre le candidat UMP, les Républicains, et Marine Le Pen. Mais le nom d'Éric Zemmour dans cette petite commune de 3200 habitants ne rencontrait pas beaucoup de succès.
Alors Olivier est avec nous, Olivier qui s'occupe de la page Facebook, et ça va être un événement pour la France républicaine, disons-le, parce que Olivier va voter pour la première fois une présidentielle.
Vous la deuxième pas... fois, Pascal.
Ah, vous aviez 18
fois.
Ans en 2017.
Oui, tout pile.
Ah
oui, une vraie émotion.
Ah donc ça sera moins important comme événement.
Moins important, évidemment, les premières fois on ne les oublie jamais. Oui, c'est sûr, Pascal.
je suis bien d'accord avec vous, cher camarade.
Bon,
que nous dit-on sur la page
Facebook?
Sur
nos réseaux sociaux, Claude nous écrit: j'ai toujours été voté, mais là je ne voterai pas. Pour l'heure, je ne m'identifie à aucun candidat. Pour Marilyn, le thème de l'écologie est sous-traité par la majorité des partis, donc son choix définitif n'est pas encore acté. Et on conclut avec Anthony, il nous dit: c'est ma première présidentielle, donc j'ai hâte de voter.
Bon, bah écoutez, merci pour ces témoignages. On va marquer une nouvelle pause et puis on va terminer l'émission. On est à 6 mois de la présidentielle. C'est vrai qu'elle a commencé peut-être un peu plus tôt, cette présidentielle, avec le mois de septembre. Généralement, c'est un mois calme, septembre.
Alors, on va aussi voter plus tôt qu'il y a 5 ans, dès le 10 avril. C'est quasiment un mois plus tôt qu'avant, mais effectivement, normalement, les hostilités commencent vraiment, on fait en fin d'année, novembre, décembre,
et
janvier.
Le deuxième tour sera...
10 et 24 avril.
Oui, alors...
On ne vote qu'au mois d'avril,
cette fois-ci. Alors, vous avez raison, parce que depuis que je m'intéresse à la politique, en fait, le calendrier présidentiel, il est calé sur la mort de Georges Pompidou. Georges Pompidou est mort le 2 avril 1974. Giscard est élu en mai 1974. Mitterrand, évidemment, le 10 mai. Ensuite, Jacques Chirac, c'était toujours au mois de mai. Donc ça, c'est un petit changement.
Et aujourd'hui, les choses sont très cadrées. Et puis, il va y avoir des jours fériés qui tombent un dimanche, en mai le 1er et le 8 mai. Donc, à l'Élysée, on s'est dit que c'est compliqué d'organiser l'élection ces jours-là. Et puis après, constitutionnellement, il y a un délai à respecter. Emmanuel Macron, il a un mandat bien précis. On ne va pas déborder de 24 heures pour pouvoir faire les élections en mai. Donc, ça sera le 10 et le 24 avril.
Bah écoutez, pour la première fois, effectivement, l'élection aura lieu le 24 avril.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je pense que Lionel sera notre dernier auditeur de la session. Bonjour Lionel, vous êtes commercial, vous habitez Lille.
Oui.
Et a priori, votre choix de la présidentielle est déjà fait.
Ah oui, depuis un petit moment. C'était Le Pen, mais maintenant, Zemmour, s'il se présente.
Ah, donc c'est plutôt Zemmour, parce que la probabilité qu'il se présente est plus forte.
Oui, parce que c'est vrai que j'aurais voté Le Pen, mais si Zemmour se présente, je vote Zemmour, parce qu'il est... Il est plus clair, il est plus net, il est plus... Il est mieux.
Pour comprendre votre itinéraire politique, vous avez 53 ans, donc vous avez voté la première fois pour une présidentielle en 88, je pense.
Non. Moi, la première fois que j'ai voté, c'était quand j'ai voté pour Sarkozy.
Ah oui, donc, mais vous ne votiez pas alors que vous étiez en âge de voter, mais vous n'aviez pas envie de voter.
Non.
Donc vous avez voté la première fois en 2007 pour une présidentielle.
Voilà, tout à fait.
Avant,
à
vous n'alliez pas aux urnes.
Non. Non.
Pourquoi ?
Non. Parce que...
Chirac, c'était pas votre truc.
Non, et puis j'étais jeune. C'est plus maintenant. Avant, on pensait à autre chose. On pensait aux filles, on pensait à jouer, on pensait à s'amuser. Maintenant
vous
ne
pensez plus aux filles, vous pensez à la politique.
Bon, à 53 ans, on vit hein, maintenant.
Bien sûr. Bon, ça. Donc vous votez Sarkozy en 2007.
Ouais.
Et en 2012, vous revotez Sarkozy ?
Non, je vote plus. J'ai pas voté.
D'accord.
Parce que j'étais, comme on va dire, j'étais un déçu de Sarkozy.
D'accord. Mais vous préférez ne pas encore en 2012, je pense que Jean-Marie Le Pen était encore candidat en 2012.
Oui, non, j'ai pas voté. J'ai pas voté.
Vous n'avez pas voté pour lui. Donc en 2017, vous votez pour Marine Le Pen ? Non.
J'ai voté Marine Le Pen.
En 2012, Marine Le Pen, c'est déjà candidate.
Déjà candidate, hein. Marine Le Pen, pardonnez-moi. En 2012, elle était déjà candidate. Excusez-moi. Heureusement que vous êtes là, William Galibert, qui est spécialiste politique. Bon.
J'ai une petite question, moi,
oui,
pour Lionel.
Je vous en prie.
Bonjour. Vous dites, Zemmour, il est plus clair, il est mieux que Marine Le Pen. Mais pour l'instant, Éric Zemmour, c'est aussi son avantage de ne pas être candidat. Il est quand même assez monothématique. C'est identité,
non.
Immigration. Non, vous n'avez pas envie d'entendre ou d'attendre ce qu'il a à dire sur la fiscalité, sur le coût de la vie,
oui,
sur l'écologie.
Sûr, je sais que... Non. On l'a déjà entendu, il a fait pas mal d'émissions, il y en a déjà discuté. Hein. Moi, j'ai écouté ces émissions. Hein. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que Macron fait 26%. Ça, je ne comprends pas.
Bah, vous ne comprenez pas, c'est-à-dire ?
Bah, à mon avis, je ne sais pas, ils ont sondé Hanouna et ses copains, c'est pas possible. Parce que moi, quand j'entends parler les gens, il n'y a personne qui veut voter Macron. C'est ça que je ne comprends pas.
Ben, il y en a 26% de ceux qui sont sondés, en tout cas. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a parfois le sentiment qu'il est très critiqué, mais en même temps, il est très haut dans les sondages. Et je peux vous rejoindre sur ce paradoxe.
Parce que Jospin, j'aimais bien Jospin, c'est vrai, j'aimais bien. Avec moins que ça, il n'y a même pas fait le deuxième tour.
Bon, merci Lionel. Rappelez-nous, parce que je pense que vous êtes un bon intervenant pour notre émission. Malheureusement, il est déjà 14h23. Merci à William Galibert.
Toujours un plaisir de
vraiment,
venir vous voir,
Vraiment, qui
Pascal.
A été parfait durant cette émission. Et le débrief avec l'ami Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
L'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'Église catholique de France depuis 1950. 330 000 personnes ont été victimes d'abus sexuels quand elles étaient mineures, de prêtres, de religieux, de laïcs en mission. Et le président de la Conférence des évêques de France a demandé pardon aux victimes.
Aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de prêtres, de religieux, de religieuses ou d'autres personnes dans l'Église, j'exprime ma honte, mon effroi, mon désir en ce jour est de vous demander pardon. Pardon à chacune et à chacun.
Claude a 80 ans, il fait partie des victimes. Il avait été violé par un prêtre quand il avait 15 ans. Un pardon qui ne suffit pas.
On fait faire des prières pour ces enfants. Mais moi, ces prières, j'en ai rien à faire. Parce que vous pensez bien que je ne vois pas la main de Dieu quand un enfant se fait violer et qu'il est assassiné. Ça, pour moi, Dieu n'existe pas.
La commission Sauvé propose de reconnaître la responsabilité de l'Église et ce constat terrifiant a fait bondir Elisabeth.
Je suis furieuse. Bah, après l'Église.
Oui.
Bon, parce que ce silence assourdissant, on savait depuis longtemps. Ah, on a de la compassion, mais on s'en fiche de la compassion. C'est effrayant, ces crimes envers des enfants.
Et mesdames, messieurs, un autre sujet vous a fait réagir ce midi. Nous sommes à 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Musique de circonstance, s'il vous plaît, Damien. Vous avez demandé, Pascal, une analyse à l'ami Julien Courbet.
On est à 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle, Julien.
Oui,
Et vous voulez que je l'avance, que je la recule?
Non, je pensais que vous pourriez là-dessus rebondir avec votre talent habituel et une saillie qui fait votre charme.
Si moi, j'aurais le temps de m'en occuper, vous savez, moi c'est souvent, je prends ma décision de vote...
Après.
En marchant, en allant au bureau de vote.
Au lendemain de l'élection.
Voilà, après je regarde, exactement. Et là, je suis sûr de ne jamais me tromper.
Et de quoi peuvent bien parler Jean-Alphonse Richard et Pascal Pro de leur futur rendez-vous, peut-être chez le dentiste?
Il n'y a plus de dents en or, de toute façon, aujourd'hui.
Ça se fait plus, il y a de la céramique. Et on arrive...
Merci pour ces révélations. Tiens, une autre révélation aujourd'hui dans l'émission.
Et est-ce qu'on peut vivre sans sexualité?
Et le don de soi. Et le don de soi-même.
Moi, j'ai fait don de mon corps aux auditeurs d'RTL.
La sécurité de RTL vient de me prévenir. C'est la folie devant le bâtiment suite à cette annonce. Aïe, aïe, aïe. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Vous faites don de votre corps, Pascal, mais vous pouvez donner autre chose, quelques idées. Je te donne
toutes mes différences. Et on peut lire le livre d'Éric Jean-Jean sur Jean-Jacques Goldman. Il est formidable.
On sera jamais des gens bien. Les standards qu'on dit, il faut...
Ah, c'est merveilleux, c'est nos années, c'est notre jeunesse, Jean-Alphonse.
Exactement,
alors,
j'adore.
Il nous a tout à l'heure un peu brocardé sur ses dents en or et ses dents en céramique, parce qu'ils seront au cœur de l'heure du crime.
Dents en or, au centre de cette affaire Bellechaud, qui navigue entre Suisse, Canada et France. C'est un vrai mystère criminel que je vous raconte dans l'heure du crime, 14h30.
Eh bien, on va vous écouter comme tous les jours avec plaisir et se donner rendez-vous aux auditeurs pour, précisément, les auditeurs demain à 13h.
A tout de suite.